le 5-7 de l'été sur France Inter.
Catherine Boulet, bonjour.
Bonjour Noël.
Nous passons à la revue de presse nationale et internationale. Dans la presse française et étrangère aujourd'hui, des petits meurtres sans conséquences.
Des petits meurtres sans conséquences en mer. La mer, le lieu du crime parfait. C'est la une du International New York Times aujourd'hui. De la Méditerranée à la mer Noire, en passant par les eaux indonésiennes ou l'océan Indien, vols, meurtres, piraterie, trafics en tout genre, la mer est devenue une jungle abominable. En 2014, 5200 attaques de pirates, 500 prises d'otages, rien que le long des côtes africaines. Et le journal rapporte cette histoire. L'année dernière, sur un portable oublié dans un taxi dans les îles Fidji, la police découvre cette vidéo glaçante. Un homme, sur une embarcation, lève les mains en signe de reddition. Une balle le touche à la tête. Il s'écroule dans une mare de sang. Et le massacre se poursuit pendant 6 minutes 58 exactement, écrit le journaliste. 1, 2, 3 hommes tombent encore. Sur la vidéo, on entend cette voix « tire, tire, tire !» Puis un groupe débarque sur le bateau, des rires et des selfies. Meurtre filmé, des dizaines de témoins, mais personne pour le dénoncer avant cette découverte du portable dans un taxi. Aujourd'hui, la concurrence est telle pour rafler les ressources en pétrole, en gaz, en poisson, dans les profondeurs de l'océan, explique le journal, que les bateaux s'arment, des bateaux qui deviennent de véritables arsenaux, des armureries géantes. La photo en une du New York Times, d'ailleurs, l'illustre très bien. Un fusil de chasse entre les mains d'un homme tatoué, un garde de sécurité privé dont on ne verra pas le visage.
À la une de la presse aujourd'hui, également de grands meurtres qui pourraient enfin avoir une conséquence.
Hissène Habré, l'ex-homme fort du Tchad, jugé à partir d'aujourd'hui pour crime contre l'humanité à Dakar, au Sénégal. Hissène Habré, le Pinochet africain, comme l'appelle la Libre Belgique, 40 000 victimes à son actif, selon la commission d'enquête nationale belge. Hissène Habré, une terreur à la barre, titre en France Libération. Un tyran informé 24 heures sur 24 du sort de ses prisonniers. Car l'homme ne s'est jamais vraiment débarrassé de sa condition de sous-préfet, analyse dans l'IB Reid Brody, conseiller juridique et porte-parole de l'ONG Human Rights Watch, qui travaille depuis 1999 sur ce dossier. Des milliers de documents concernant ses victimes parvenaient à Hissène Habré. Et il les lisait tous, travaillant jusqu'à 2h du matin. Il suivait même les interrogatoires d'opposants par Tokiwoki, complète la Libre Belgique. Mais voilà, dans l'ombre du procès d'Hissène Habré, un autre se tiendra en creux, écrit Tanguy Berthemey dans le Figaro. Celui de l'étrange politique de la France et des États-Unis, soutien absolu du régime tchadien d'alors. Car l'Amérique de Ronald Reagan avait fait de Habré son pion dans le jeu africain. Habré, qui était l'ennemi numéro un de l'ennemi Kadhafi. L'Amérique déverse alors des flots d'armes au Tchad et la France de François Mitterrand engage son armée aux côtés de N'Djamena. Hissène Habré, notre ex-ami, le dictateur, résume Libération en couverture. Tournant décisif dans l'histoire de la justice africaine, résume aussi La Croix. Ce sera le premier jugement en Afrique d'un dictateur africain par une cour africaine qui applique la compétence universelle, se réjouit Florent Guel de la Fédération internationale des droits de l'homme.
Également à lire en une de La Croix aujourd'hui, les droits de l'homme plus que jamais en question à Calais.
Calais transformé cet été en camp humanitaire. Accès à l'hygiène, soins de santé, aide alimentaire, mise à l'abri dans ce bidonville géant de 3000 migrants surnommé la New Jungle. Quatre ONG, le Secours catholique, Médecins du Monde, Solidarité internationale et le Secours islamique, ont mis en place les mêmes mesures que lors des catastrophes humanitaires. Et le reportage raconte notamment les urgences du nouveau centre hospitalier du boulevard des Justes, c'est au sud de la ville de Calais. Les migrants défilent au centre de traumatologie pour des fractures du fémur ou du bassin. On trouve ici, en fait, ceux qui ont pris trop de risques pour traverser sur des camions en marche pour se rendre en Grande-Bretagne. Eh bien, on les appelle les fictifs, raconte une infirmière. Ils ont un matricule en ZZ, car on ne connaît ni leur identité, ni leur date de naissance.
Une autre idée de l'Europe, c'est aussi ce que défend Yanis Varoufakis en une de l'Opinion aujourd'hui.
Parce qu'il sera l'invité de la Fête de la Rose, l'ex-ministre démissionnaire du gouvernement Tsipras, le 23 août prochain à Frangy-en-Bresse, l'invité d'Arnaud Montebourg. Ce que cache la Varoufmania, titre aujourd'hui l'Opinion. Réponse, une nouvelle poussée de fièvre radicale en Europe, fièvre radicale anti-austérité, mais surtout anti-Europe FMI, explique Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe Institut Jacques Delors. Les leaders d'extrême gauche pensaient que Tsipras serait l'incarnation de l'international socialiste sauvant l'humanité. Or, il est clair désormais qu'il sera uniquement le sauveur de son propre peuple. Voilà pourquoi les déçus de Tsipras se tournent vers Yanis Varoufakis, qui apparaît comme un pur n'ayant pas cédé.
Dans la tête de Tsipras, c'est justement la une du Parisien aujourd'hui en France, alors qu'il met en œuvre aujourd'hui un nouveau plan d'austérité.
Oui, une une bien survendue, parce qu'évidemment, on n'apprend pas grand-chose sur ce qui se passe dans la tête du Premier ministre grec. Tout juste apprend-on par la bouche de sa maman qu'il ne mange plus et ne dort plus. Certes, le journal est parti sur les traces de son enfance, où l'on apprend qu'elle était normale et qu'il aimait rire et s'amuser, qu'il était également très populaire. Un élu de Syriza, furieux contre l'accord avec Bruxelles, les trie quand même au passage, Tsipras. Au début, on l'avait choisi parce qu'il avait le physique de l'emploi, comme une cire molle qu'on pourrait façonner.
Tout le contraire de Wolfgang Schäuble, en somme.
Tout en raideur, le visage fermé dans son fauteuil roulant, il fait la une du Spiegel et du Süddeutsche Zeitung pour ses désaccords avec Angela Merkel. Et surtout, sa menace de démission qui ne passe pas auprès du SPD, le ministre des Finances allemand, partenaire, donc le SPD, partenaire de la chancelière au sein de la coalition. Le ministre des Finances qui flirte avec la démission comme il a flirté avec la menace d'un Grexit.
Pour réconcilier tout le monde, maintenant on va serrer la main.
Oui, serrez-moi la main, Noël. Parce que c'est plus révélateur qu'on ne le pense. En tout cas, c'est la théorie de Jean de Bonny, c'est-à-dire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Jean de Bonny, il a serré des milliers de mains. Il en a tiré des conclusions. Mains chaudes et sèches, mains de patron et politique. Chaudes et humides, artistes. Froides et sèches, conseillers et formateurs. Froides et humides, mains de fonctionnaires. Vous avez une main d'artiste, Noël.
Eh bien, vous aussi, vous l'avez chaude et sèche. Et les pieds, non ? Pas les pieds froids ?
On fera ça un autre jour.
D'accord. C'était la revue de presse nationale et internationale de Catherine Boulet.